Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour dans Chrétien d'Orient, ce matin, Sébastien de Courtois, nous sommes avec Catherine Mayer-Jaouen. Nous allons continuer notre voyage en Égypte, entamé lors de l'émission précédente avec une approche du monde copte, des mondes coptes. Et ce matin, nous continuons cette exploration par un ouvrage, Voyage en Haute-Égypte, prêtre, copte et catholique. Bonjour Catherine.
Bonjour Sébastien.
Alors ce matin, nous sommes dans le monde copte et cette petite minorité, les coptes catholiques. Alors on parle de 200 à 250 000 personnes, je crois.
Voilà, ils sont très peu nombreux.
Hein. Voilà, donc sur l'Égypte, on rappelait le chiffre la dernière fois, 100 millions, je crois.
Voilà, on est à 100 millions, un peu plus de 100 millions même maintenant, et puis 8 millions, peut-être 10 millions de coptes orthodoxes. Donc vraiment une très petite minorité.
Donc nos 250 000 coptes catholiques, c'est à peine un faubourg du Caire, c'est même pas une petite ville de Haute-Égypte. Qu'est-ce que c'est géographiquement, ils sont répartis où plutôt?
Alors géographiquement, il y a des petites communautés urbaines au Caire, Alexandrie, mais les forces vives et l'essentiel encore de la population copte catholique est en Haute-Égypte et pas dans toute la Haute-Égypte. La Haute-Égypte, c'est-à-dire le sud à partir du Caire jusqu'à Assouan, mais le foyer des coptes catholiques, on peut dire, c'est la région de Minya, Assiout, le gouvernorat de Sohag et puis leur berceau historique qui est entre justement Armim, la ville d'Armim près de Sohag, et la ville de Tarta. Donc une région, si vous voulez, qui est au nord de Louxor, hein, pour situer par rapport l'éventuel auditeur qui serait un touriste.
Alors on vous suit dans votre voyage, un récit de voyage, hein, à plusieurs entrées, un peu d'anthropologie, un petit peu d'ethnographie, beaucoup de rencontres, de dialogues, un ouvrage vivant, une somme à la fois sur l'histoire et le présent, une préface de Robert Solé, Voyage en Haute-Égypte qui vient de sortir au CNRS Édition. Alors vous voyagez en train, vous vous déplacez, nous sommes vers Louxor, enfin du Caire jusqu'à Louxor, on est à mi-chemin à peu près.
C'est ça.
Voilà, ce cœur égyptien.
C'est le cœur égyptien, c'est le cœur égyptien aussi à cause des paysages qui sont très marquants, à cause d'une surpopulation un peu moindre, à vrai dire, parce que ce sont des régions pauvres. Hein. Il faut insister sur la pauvreté qui fait partie de l'arrière-plan aussi de cette enquête sur les coptes catholiques. Et ce que je décris dans le livre, c'est beaucoup la vie de ces villages et la vie des curés de village qui sont du coup des sortes d'acteurs de développement social dans des villages qui sont délaissés par l'État. Parce qu'il faut bien le dire que c'est une région où, par exemple, le président Moubarak n'était pas allé pendant toute sa longue présidence.
Alors pourquoi les coptes catholiques? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette minorité?
Alors c'est une longue histoire, j'avais d'abord écrit un mémoire de maîtrise sur le collège jésuite du Caire, créé en 1879, qui était un collège donc d'enseignement secondaire pour les élites égyptiennes, mais qui devait être aussi en même temps un séminaire copte catholique, créé dans le cadre de la politique orientale de Léon XIII pour donc former des prêtres coptes catholiques, de rite copte, mais rattachés à Rome, et entraîner ainsi le développement de cette très très petite église copte catholique. Donc j'avais fait ce mémoire de maîtrise, j'avais déjà un petit peu vu le sujet, mais c'est en 1989 que j'ai vraiment rencontré au fond des coptes catholiques, des séminaristes, en donnant des cours de français au séminaire copte catholique du Caire, à Maradi qui est au sud du Caire, et ces séminaristes ensuite je les ai suivis, je les ai retrouvés, d'une part à Rome où ils ont complété leurs études en faisant des, pas exactement des thèses mais ce qu'on appelle des tesina en italien, c'est-à-dire des espèces de masters à l'université grégorienne, et ensuite ils sont rentrés en Égypte, au milieu des années 2000 plutôt, dans des villages dont ils sont devenus donc les curés. Alors je suis allée les retrouver dans ces villages et c'est un peu toute cette histoire que raconte le livre.
Au début du patriarcat copte catholique, écrivez-vous, vous décrivez une période faste. Les coptes catholiques n'étaient environ que 5000 en 1888 pour 21 prêtres. Ils étaient 4630 en 1897, soit 0,8% de la population égyptienne. Mais quelques années après, ils sont 2,1% de la population. Voilà, on comprend très bien en fait cet accroissement qui suit d'une certaine manière manière la démographie égyptienne, mais surtout cette petite minorité vaillante qui essaye de s'accrocher, de survivre par rapport au monde copte orthodoxe peut-être.
Alors de survivre, mais de s'accroître. Hein. C'est effectivement une période, fin 19e siècle, puis entre deux guerres, on peut dire, une période faste, où ils se sont accrus plus vite, la minorité copte catholique s'est accrue plus vite que ce que le simple accroissement démographique aurait entraîné. Pourquoi ? Parce que à l'époque, alors dans une époque qui est une époque de domination coloniale, britannique, mais où les Français jouent un rôle très important à cause de leurs écoles, les coptes catholiques, qui sont liés également aux Italiens, à l'Autriche-Hongrie, les coptes catholiques présentent l'avantage de fournir la possibilité de devenir éventuellement des protégés de consulats européens, à une époque où les consulats européens ont pignon sur rue, donc des protégés, c'est-à-dire avec des avantages aussi bien juridiques, fiscaux. Et puis surtout, et ça je crois que c'est le point quand même dominant, cette église copte catholique propose des écoles, voilà. Propose des écoles qui sont soit les écoles des missionnaires, soit les écoles créées par des laïcs ou les prêtres eux-mêmes d'ailleurs, des écoles dans des régions où il n'y en a pas. Ça, c'est un point important.
Alors, on sent très bien dans votre description qu'il y a une évolution certaine entre les franciscains italiens et l'arrivée des jésuites français. Là, on passe à un autre régime, disons, un régime un peu plus sérieux peut-être.
Alors, du point de vue des jésuites, plus sérieux, ça c'est certain. Les franciscains italiens pourraient se défendre en disant qu'eux étaient beaucoup plus adaptés, parce que finalement, il n'y avait pas une différence énorme entre le Mezzogiorno italien et la Haute-Égypte, probablement, un monde rural très pauvre, voilà, une piété très à l'italienne d'ailleurs, qui restait marquante hein, chez les coptes catholiques. Et puis alors, les jésuites arrivent avec, donc envoyés par Rome en somme, hein, pour faire ce séminaire copte catholique, introduire des normes, par exemple celle du célibat pour les prêtres, qui n'était pas du tout une norme auparavant, pour les prêtres coptes catholiques. Le rite copte autorise tout à fait à ce qu'il y ait des prêtres mariés, et les coptes orthodoxes, de fait, leurs prêtres sont mariés. Donc le célibat, une piété, alors cette fois-ci à la française, hein, donc plus encadrée, avec des mouvements de jeunesse, et puis cette insistance sur l'école, sur les études, qui là quand même, certainement, est spécifique des jésuites, qui ont créé ou fait créer, parce qu'ils n'étaient pas si nombreux, il faut admirer leur action, parce que ils avaient des relais, si vous voulez, des sortes d'auxiliaires locaux, coptes, qui ont créé des écoles, à partir d'abord de Minia, c'est la région actuellement où il y a le plus de tensions confessionnelles, donc des villages à partir de Minia, et puis ensuite plus au sud. Et ces écoles ont entraîné le ralliement de villages entiers, parfois, ou de communautés en tout cas, de familles, à l'église copte catholique.
Comment la création de cette église copte catholique a-t-elle été prise par le grand frère orthodoxe ?
Assez mal, comme c'est le cas aussi quand l'église grecque catholique a été créée au début du XVIIIe siècle en Syrie, naturellement. On est vraiment dans les années 1870-1880. C'est la période où la présence européenne est telle que, à vrai dire, les coptes orthodoxes n'étant pas encore justement dans une période de renouveau qui leur permette de résister, eh bien ne peuvent pas réellement réagir. Ils ont réagi par la suite, hein, mais ils ne peuvent pas réagir sur le moment. Parce que, contrairement à d'autres églises au Proche-Orient arabe, en Syrie, en Irak, on peut dire que l'église copte orthodoxe n'avait pas connu encore cette période de renouveau. Par exemple, ne créait pas d'école, n'avait pas encore ces mouvements d'école du dimanche qu'elle a créé par la suite, et donc a été soumise à la pression, à la fois des missions protestantes, hein, ça c'est important de le dire, presbytériens américains notamment, anglicans aussi, alors des missions qui ont été étudiées par une collègue américaine ces dernières années, donc les missions protestantes et les missions catholiques qui sont elles-mêmes en rivalité. C'est-à-dire que l'idée est que l'église copte orthodoxe est dans une période de faiblesse, et ces missions protestantes comme catholiques pensent que il va être très facile, ce n'a pas été le cas en fait, il va être très facile de faire basculer ces coptes orthodoxes vers soit le protestantisme, soit le catholicisme.
Alors c'est un phénomène que l'on retrouve dans d'autres parties de l'Empire ottoman, mais voilà, nous sommes en Égypte qui était en pleine période coloniale avec l'arrivée des missionnaires, mais on retrouve un petit peu le même phénomène auprès des communautés grecques, auprès des communautés arméniennes, des communautés syriaques, et effectivement cette arrivée des missionnaires qui stimule finalement ces communautés, si on veut être avoir un regard bienveillant, c'est-à-dire que l'arrivée de ces formes d'enseignement ont stimulé les autres communautés et aussi le monde musulman.
C'est très exact, parce que d'abord, il faut bien dire que ces écoles scolarisaient aussi bien des coptes orthodoxes et des musulmans que des coptes catholiques.
Ce qu'elles font toujours.
Font toujours, absolument. Ce ne sont pas des écoles sectaires. Alors, la seule chose, c'est est-ce que un musulman va accepter ou pas d'envoyer son enfant à l'école. Mais quand c'est la meilleure, comme c'est le cas toujours aujourd'hui, souvent, quand l'école des sœurs, puisque les religieuses ont joué aussi un rôle très important dans cette affaire, quand l'école des sœurs est la meilleure école locale, les parents ne refusent pas d'envoyer leurs enfants quand ils le peuvent. Donc stimulus, ça c'est vrai, pour l'ensemble de, peut-être, de la société, avec des rôles nouveaux. Par exemple, j'évoquais les religieuses à l'instant, mais le fait que voilà, une femme non mariée, célibataire, alors au départ c'était des Italiennes, des Françaises, et puis de plus en plus ensuite des Égyptiennes, puisse jouer un rôle, donc une femme puisse jouer un rôle social et un rôle public d'ailleurs, hein, dans une société où toutes les femmes, coptes comprises, étaient entièrement voilées et se voilaient le visage et restaient le plus possible cloîtrées à la maison, enfin n'allaient pas dans les champs. Hein, au Égypte, c'est important de le dire, contrairement au Delta, c'est une société qui est quand même extrêmement patriarcale. Donc le fait que les femmes jouent un autre rôle, proposent un autre rôle, qu'on propose une instruction pour tous, que cette instruction met l'accent aussi sur les aspects théologiques, parce que, indépendamment de la formation que donne naturellement le fait de pratiquer une religion, il y avait peu de formation théologique, et au départ, les coptes catholiques, l'Église catholique, a mis en avant, et encore maintenant d'ailleurs, met en avant le fait que eux étaient plus attachés aux livres, hein, à l'aspect livresque, et à la définition théologique dogmatique de leur dogme pour s'opposer aux orthodoxes. Par exemple, la croyance dans le purgatoire, aujourd'hui, reste un des traits dominants des coptes catholiques par rapport aux orthodoxes.
Voyage en Haute-Égypte, prêtre, copte et catholique, ouvrage de Catherine Mayer-Jaouen qui vient de sortir aux éditions du CNRS. Évoquons quelques personnages maintenant. Un personnage du passé et un personnage du présent, parce que votre livre est aussi sur le présent. Alors, sur ce passé, il y a quand même ce patriarche, Cyril Macaire, qui est élu à 28 ans, un patriarche de moins de 30 ans. Quelle est son histoire ?
Alors, c'est une histoire assez tragique, à vrai dire, et en même temps fascinante. C'est le fils d'un diacre copte orthodoxe qui est passé au catholicisme et qui était dans un village de Haute-Égypte qui s'appelle Chanaïna. Ce diacre, donc le père de Cyril Macaire, appartenait à une grande famille certainement très riches, les Aoula d'Ibrahim, qui ont réussi, en passant au catholicisme, à créer des églises, créer des écoles, là aussi. Et finalement, donc, ce fils, le diacre ayant été marié, était veuf, avait un fils, Cyril Macaire, qui, dès l'âge de 8 ans, étant quelqu'un de particulièrement brillant, a été envoyé par les jésuites à Beyrouth.
Alors, nous sommes à la toute fin du 19e siècle.
On est, dans les années, à la fin du 19e siècle, il part à Beyrouth, et est formé par les jésuites et ne revient une fois adulte, plus de 15 ans après, ne revient en Égypte que très ponctuellement pour devenir prêtre, administrateur apostolique et rapidement en 1899 devient le premier patriarche copte catholique avec deux évêques
auxiliaires. Alors je parlais d'élection, mais s'agit-il vraiment d'une élection ?
L'élection serait un grand mot. En principe, c'est ce qu'est le cas d'ailleurs pour le copte orthodoxe. Le patriarche copte orthodoxe est élu par le synode, hein, par le Saint-Synode, et puis il y a un tirage au sort dans trois noms qu'on lui propose. Là, comme il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas d'institutionnalisation de l'Église copte catholique, c'est clairement les jésuites qui ont choisi leur sujet le plus brillant pour devenir patriarche copte catholique. Il est parfaitement francophone, donc la France approuve. L'Autriche-Hongrie peut-être un peu moins contente parce qu'elle pensait avoir elle-même un protectorat sur les coptes catholiques, mais au départ, Cyril Macaire donne toute satisfaction. Peu d'années passent d'ailleurs, la communauté croît, ça croît, et peu d'années passent, mais malheureusement pour Cyril Macaire, en 1908, éclate une grave crise qui est peut-être liée au fait que d'abord le pape Léon XIII, qui avait beaucoup soutenu les orientaux, venait de mourir, le mécène principal de la communauté copte catholique venait de mourir aussi, et que son héritage a fait l'objet visiblement de tiraillements et d'affrontements au sein de la communauté. Enfin, que les jésuites n'étaient peut-être plus si contents de leur protégé qui, visiblement, avec ses évêques, voulait affirmer une identité copte catholique égyptienne d'une façon à la fois très obstinée et très, très vaillante, effectivement. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure, mais finalement, cet élève, cette création des jésuites leur échappait. Alors, il y a peut-être eu aussi, dans cette grave crise de 1908, des affrontements au sein de la communauté elle-même. Toujours est-il que le patriarche a été déposé, il est allé à Rome pour s'expliquer, mais il est revenu simple évêque, et finalement, donc, démis de ses fonctions comme patriarche. La crise est si grave, d'ailleurs, qu'il n'y a plus d'autres patriarches copte catholiques avant 1947.
L'Église disparaît peut-être ? Il y a un risque ?
Il y avait un risque que l'Église disparaisse et de fait, sa croissance a été stoppée net.
Est-ce qu'on parle de quelques prêtres, quelques dizaines de prêtres, voilà, de quelques milliers de fidèles ?
Tout à fait, ça reste une communauté extrêmement faible et dont l'essor est stoppé d'ailleurs aussi par la Première Guerre mondiale, la Révolution 1919 en Égypte, les différents troubles, et ne repart à la hausse que dans les années 20, 1920, alors avec de nouveau création d'écoles, création d'églises.
Alors le patriarche Macaire a peut-être voulu aussi s'alléger de la tutelle des jésuites, on peut bien le comprendre, s'alléger aussi de liens familiaux, parce qu'on comprend bien aussi que cette communauté, par votre ouvrage, est une communauté de famille en fait, avec des lignages compliqués, mais qui se retrouvent peut-être.
C'est une communauté, alors en Haute-Égypte de façon particulière, une communauté de familles qui savent elles-mêmes d'où elles viennent, si je puis dire. Alors l'un des problèmes en Égypte quand on enquête d'ailleurs, c'est que les gens évidemment ne se présentent pas en disant « Bonjour, je suis membre de la famille, par exemple, des Aoula d'Ibrahim », cette famille notoire du patriarche Cyril Macaire, et qui était donc à l'origine de la création de l'église copte catholique dans ce village de Chanaïna. Sauf quand on creuse, quand on passe du temps, on s'aperçoit que par exemple l'actuel évêque d'Assiout et de la famille du patriarche Cyril Macaire.
Alors c'est William Kyrillos.
Kyrillos William, voilà, Monseigneur Kyrillos William, tout à fait. Et puis que le curé de Chanaïna lui-même, qui est un curé parmi d'autres, est aussi de cette famille. Donc ça veut dire que depuis au moins le début du 19e siècle, peut-être depuis le 18e siècle, on a une même famille qui contrôle toujours ces villages et a trouvé les moyens de se renouveler, éventuellement s'enrichir, ça c'est encore un autre problème, mais en tout cas de dominer un territoire. Finalement, c'est vrai pour d'autres familles de prêtres, parce qu'il y a des familles avec des vocations sacerdotales. Chez les coptes orthodoxes, on était, comme chez les maronites d'ailleurs, prêtres de père en fils. Et puis là, évidemment, avec les prêtres coptes catholiques devenus célibataires, ça n'est plus le cas, mais on est au moins prêtre d'oncle à neveu, par exemple.
Est-ce qu'il existe un monachisme copte catholique ?
Non, il y a une tentative, vers 1960, une tentative, les frères de la prédication de Saint-Marc, il y en a eu trois, et puis alors l'un a quitté les ordres, je ne me rappelle plus, mais enfin, finalement, il n'y a pas eu d'autres vocations.
Alors, vous décrivez des villages de Haute-Égypte, est-ce que les coptes catholiques partent vers les grandes villes, sont attirés par ces immenses mégalopoles comme leurs compatriotes coptes ou même musulmans?
L'exode rural est un phénomène majeur pour l'Égypte depuis longtemps, qui s'est beaucoup aggravé quand même depuis le début des années 90. C'est-à-dire que, d'une part, l'accroissement démographique, d'autre part, la raréfaction des ressources, y compris la terre, tout simplement. Il n'y a pas de terre pour tous, beaucoup de paysans sans terre, mais qui autrefois avaient d'autres débouchés, l'artisanat, le petit commerce, etc. Toutes ces choses, sinon disparaissent, du moins déclinent. Et donc, la jeunesse part pour les villes, oui. Alors, quelles villes ? Ben, ça peut être les villes de la mer Rouge, pour le tourisme, par exemple pour Gada, une station...
pour mieux gagner sa vie.
Pour mieux gagner sa vie, pour avoir plus de place, pour avoir des horizons, pour avoir des horizons pour les enfants. Et puis, les villes du Nord, principalement le Caire, éventuellement même la migration, soit vers, hélas, la Libye, comme les Coptes d'ailleurs orthodoxes aussi, soit vers l'Europe, l'Italie notamment.
Et quand ils arrivent dans ces grandes villes, comment vont-ils à l'église ? Il n'y a peut-être pas d'église dans ces grands quartiers du Caire, par exemple ?
Parfois, il n'y a pas d'église, il y a des églises coptes orthodoxes, ça, il y en a toujours, mais il n'y a pas d'église copte catholique. Eh bien, soit ils deviennent coptes orthodoxes, c'est des choses qui se passent. Par exemple, Kéna, qui n'a pas d'église copte catholique, une famille copte catholique qui va dans la ville de Kéna, qui est un gouvernorat, donc une grosse ville, va devenir copte orthodoxe. Soit ils passent à un autre rite, le rite latin par exemple, soit quand même ils recréent effectivement autour de paroisses coptes catholiques une petite vie, mais qui est très différente de la vie du village, qu'il n'y a plus cet ancrage de solidarité traditionnelle qui peut être pesant d'ailleurs, et puis qui peut être aussi un soutien au quotidien.
Alors ce sont des prêtres qui sont connectés au présent, vous décrivez dans votre livre l'arrivée de l'internet, l'arrivée des smartphones.
Par ces prêtres, effectivement.
Par ces prêtres, exactement.
Oui, tout à fait.
Vous pensez que ça peut changer le sentiment d'appartenir à une paroisse, à une communauté ?
Je pense que ça fortifie, et ça serait vrai pour les orthodoxes comme pour les musulmans, ça fortifie l'idée d'appartenir à une religion mondiale. Parce que les coptes catholiques savent qu'ils sont très minoritaires, qu'ils sont faibles, qu'ils sont pauvres d'ailleurs, plus pauvres que les coptes orthodoxes désormais, mais ils appartiennent à une église universelle, ce dont ils sont très fiers. Ce qui veut souvent dire église italienne d'ailleurs, parce que les saints catholiques, pour eux, c'est Sainte Rita, une église universelle dont ils sont conscients en revanche de la puissance. Et alors ils suivent sur des sites internet, ils suivent avec application tout ce qui se fait dans l'église catholique, ils suivent le pape François, auquel ils sont très attachés au pape, ce sont des catholiques ultramontains.
Alors Catherine Maillard, je voudrais que vous évoquiez la figure du père Romani, en quelques phrases, ce père qui vous guide, qui a moins de 50 ans, qui a l'air assez fascinant, qui prêche, qui est enthousiaste, qui est optimiste, dirais-je.
Qui est optimiste, c'est vraiment, on peut dire, la figure de... Il s'est imposé peu à peu dans le livre. J'avais envie d'écrire ce livre sur les coptes catholiques en général, sur leur histoire d'abord. Et puis peu à peu, le livre a basculé au fur et à mesure de son écriture, qui a pris du temps, vers un livre d'anthropologie, parce que, entre autres, à cause de la figure de Romani, à cause de sa personnalité exceptionnelle, on peut dire que c'est vraiment l'amour qui agit. C'est quelqu'un qui parle assez peu, il prêche, c'est vrai, mais ce sont des sermons assez courts. Il ne se met pas en avant, d'ailleurs, tout en étant conscient de sa force. C'est quelqu'un de fort, de très joyeux, que j'avais connu comme séminariste, il faisait partie de mes élèves, il a appris le français, que j'ai retrouvé, alors il a été ensuite en Algérie, et puis je l'ai trouvé à Rome, et c'est quelqu'un qui a réussi à faire dans ses villages des actions, on peut dire, sans précédent.
Des miracles.
Oui, les gens le présentent comme tel, hein. C'est présente des miracles. Par exemple, là, il avait déjà créé un jardin d'enfants, alors dans un village où il n'y a rien. Il a contribué à ce que des religieuses s'installent dans ce village où il n'y avait ni eau ni électricité, maintenant qui est assez bien équipé. Ces religieuses ont ouvert un dispensaire et ce dispensaire a été transformé grâce à lui, à sa ténacité, recherche de financement, sa ténacité vraiment, son action politique aussi, parce que c'est une action politique vis-à-vis des autorités locales pour créer un hôpital, alors un vrai hôpital. C'est complètement fascinant parce qu'on est, cet hôpital, je l'ai visité en fin janvier dernier, il vient d'être inauguré. Il est là, en limite du désert, il dessert 9 villages, là aussi sans particularisme confessionnel du tout. Hein. Il y a d'ailleurs même des médecins musulmans et des infirmiers musulmans qui travaillent aussi dans cet hôpital. Et qui dessert ce village dont il est très difficile de sortir puisque les gens n'ont pas de voiture. Donc et la route elle-même est presque inexistante.
Est-ce qu'on peut aller le voir? Est-ce qu'on peut l'aider peut-être financièrement? Est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent s'engager pour...
Oui, alors il n'y a pas encore une fondation particulière, mais on peut l'aider financièrement peut-être en transférant de l'argent à l'Institut Dominicain d'études orientales du Caire, en précisant bien que c'est pour l'hôpital du Père Romani, et les frères dominicains se chargeront d'acheminer l'argent sur place.
Dans quel endroit est son hôpital?
Son hôpital est dans un village qui s'appelle Nazlet Rater, qui est près de la ville de Tarta.
Et il s'occupe d'une paroisse aussi dans ce village?
Nazlet Rater, c'est la paroisse copte catholique de Nazlet Rater, donc c'est là qu'il a créé le jardin d'enfants et l'hôpital.
Combien de coptes catholiques à peu près?
Que centaines, puis ils sont peut-être 400. Mais c'est là qu'on voit qu'un rayonnement, mais ce sont des gens qu'il connaît un par un. Chacun, c'est un peu le curé de campagne du 19e siècle, qui fait des visites pastorales chaque dimanche et rencontre chacun de ses paroissiens.
Ce matin avec Catherine Mayer-Jaouen pour l'évocation de ce livre important, Voyage en Haute-Égypte, prêtre, copte et catholique au CNRS, édition. Les informations sur comment envoyer de l'argent au Père Romani vont être mises sur le site internet de France Culture, sur la page Chrétien d'Orient. Je remercie Delphine Baudet, Claire Poinsignon, Dany Journaud pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons le service protestant. Bon dimanche.